Michel Strogoff était relativement en sûreté. Toutefois, sa situation restait encore terrible. Maintenant que le fidèle animal qu'il avait si courageusement servi venait de trouver la mort dans les eaux du fleuve, comment, lui, pourrait-il continuer son voyage? Il était à pied, sans vivre, dans un pays ruiné par l'invasion, battu par les éclaireurs de l'émir, et il se trouvait encore à une distance considérable du but qu'il fallait atteindre. « Par le ciel, j'arriverai !» s'écria-t-il, répondant ainsi à toutes les raisons de défaillance que son esprit venait un instant d'entrevoir. « Dieu protège la Sainte Russie !» Michel Strogoff était alors hors de portée des cavaliers ouzbeks. Ceux-ci n'avaient point osé le poursuivre à travers le fleuve, et d'ailleurs, ils devaient croire qu'il s'était noyé, car après sa disparition sous les eaux, ils n'avaient pu le voir atteindre la rive droite de l'Oby. Mais Michel Strogoff, se glissant entre les roseaux gigantesques de la berge, avait gagné une partie plus élevée de la rive, non sans peine cependant, car un épais limon déposé à l'époque du débordement des eaux la rendait peu praticable. Une fois sur un terrain plus solide, Michel Strogoff arrêta ce qu'il convenait de faire. Ce qu'il voulait avant tout, c'était éviter Tomsk, occupé par les troupes tartares. Néanmoins, il lui fallait gagner quelques bourgades, et au besoin quelques relais de poste où il pût se procurer un cheval. Ce cheval trouvé, il se jetterait en dehors des chemins battus, et il ne reprendrait la route d'Irkoutsk qu'aux environs de Krasnoïarsk. À partir de ce point, s'il se hâtait, il espérait trouver la voie libre encore et il pourrait descendre au sud-est les provinces du lac Baïkal. Tout d'abord, Michel Strogoff commença par s'orienter. À deux verstes en avant, en suivant le cours de l'Oby, une petite ville, pittoresquement étagée, s'élevait sur une légère intumescence du sol. Quelque église à coupole byzantine coloriée de vert et d'or se profilait sur le fond gris du ciel. C'était Kolivan, où les fonctionnaires et les employés de Kamsk et autres villes vont se réfugier pendant l'été pour fuir le climat malsain de la Baraba. Kolivan, d'après les nouvelles que le courrier du tsar avait apprises, ne devait pas être encore aux mains des envahisseurs. Les troupes tartares, scindées en deux colonnes, s'étaient portées à gauche sur Omsk, à droite sur Tomsk, négligeant le pays intermédiaire. Le projet, simple et logique, que forma Michel Strogoff, ce fut de gagner Kolivan avant que les cavaliers ouzbeks, qui remontaient la rive gauche de l'Oby, y fussent arrivés. Là, dût-il en payer 10 fois la valeur, il se procurerait des habits, un cheval, et rejoindrait la route d'Irkoutsk à travers la steppe méridionale. Il était 3 heures du matin. Les environs de Kolivan, parfaitement calmes alors, semblaient être absolument abandonnés. Évidemment, la population des campagnes fuyant l'invasion à laquelle elle ne pouvait résister s'était portée au nord dans les provinces de Lieniseisk. Michel Strogoff se dirigeait donc d'un pas rapide vers Kolivan lorsque des détonations lointaines arrivèrent jusqu'à lui. Il s'arrêta et distingua nettement de sourds roulements qui ébranlaient les couches d'air et au-dessus une crépitation plus sèche dont la nature ne pouvait le tromper. C'est le canon! « C'est la fusillade !» se dit-il. « Le petit corps russe est-il donc aux prises avec l'armée tartare ? Ah ! Fasse le ciel que j'arrive avant eux à Kolivan !» Michel Strogoff ne se trompait pas. Bientôt, les détonations s'accentuèrent peu à peu, et en arrière, sur la gauche de Kolivan, des vapeurs se condensèrent au-dessus de l'horizon, non pas des nuages de fumée, mais de ces grosses volutes blanchâtres très nettement profilées que produisent les décharges d'artillerie. Sur la gauche de l'Oby, les cavaliers ouzbeks s'étaient arrêtés pour entendre le résultat de la bataille. De ce côté, Michel Strogoff n'avait plus rien à craindre. Aussi hâta-t-il sa marche vers la ville. Cependant, les détonations redoublaient et se rapprochaient sensiblement. Ce n'était plus un roulement confus, mais une suite de coups de canon distincts. En même temps, la fumée ramenée par le vent s'élevait dans l'air, et il fut même évident que les combattants gagnaient rapidement au sud. Kolivan allait être évidemment attaqué par sa partie septentrionale. Mais les Russes la défendaient-ils contre les troupes tartares, ou essayaient-ils de la reprendre sur les soldats de Féofarkhan? C'est ce qu'il était impossible de savoir. De là, grand embarras pour Michel Strogoff. Il n'était plus qu'à une demi-verste de Kolyvan lorsqu'un long jet de feu fusa entre les maisons de la ville et le clocher d'une église s'écroula au milieu de torrents de poussière et de flammes. La lutte était-elle alors dans Kolyvan ? Michel Strogoff dut le penser, et dans ce cas, il était évident que Russes et Tartares se battaient dans les rues de la ville. Était-ce donc le moment d'y chercher refuge ? Michel Strogoff ne risquait-il pas d'être pris et réussirait-il à s'échapper de Kolyvan comme il s'était échappé d'Omsk ? Toutes ces éventualités se présentèrent à son esprit. Il hésita. Il s'arrêta un instant. Ne valait-il pas mieux, même à pied, gagner au sud et à l'est quelques bourgades telles que Diachinsk ou autres, et là se procurer à tout prix un cheval ? C'était le seul parti à prendre. Et aussitôt, abandonnant les rives de l'Oby, Michel Strogoff se porta franchement sur la droite de Kolyvan. En ce moment, les détonations étaient extrêmement violentes. Bientôt, des flammes jaillirent sur la gauche de la ville. L'incendie dévorait tout un quartier de Kolyvan. Michel Strogoff courait à travers la steppe, cherchant à gagner le couvert de quelques arbres disséminés çà et là, lorsqu'un détachement de cavalerie tartare apparut sur la droite. Michel Strogoff ne pouvait évidemment plus continuer à fuir dans cette direction. Les cavaliers s'avançaient rapidement vers la ville, et il lui eût été difficile de leur échapper. Soudain, à l'angle d'un épais bouquet d'arbres, il vit une maison isolée qu'il lui était possible d'atteindre avant d'avoir été aperçu. Y courir, s'y cacher, y demander, y prendre au besoin de quoi refaire ses forces, car il était épuisé de fatigue et de faim. Michel Strogoff n'avait pas autre chose à faire. Il se précipita donc vers cette maison distante d'une demi-verste au plus, et en s'en approchant, il reconnut que cette maison était un poste télégraphique. Deux fils en partaient dans les directions ouest et est, et un troisième fil était tendu vers Kolyvan. Que cette station fût abandonnée dans les circonstances actuelles, on devait le supposer, mais enfin, telle qu'elle, Michel Strogoff pourrait s'y réfugier et attendre la nuit, s'il le fallait, pour se jeter de nouveau à travers la steppe que battaient les éclaireurs tartares. Michel Strogoff s'élança aussitôt vers la porte de la maison et la repoussa violemment. Une seule personne se trouvait dans la salle où se faisaient les transmissions télégraphiques. C'était un employé, calme, flegmatique, indifférent à ce qui se passait au dehors. Fidèle à son poste, il attendait derrière son guichet que le public vînt réclamer ses services. Michel Strogoff courut à lui, et d'une voix brisée par la fatigue. « Que savez-vous ? » lui demanda-t-il. « Rien, » répondit l'employé en souriant. « Ce sont les Russes et les Tartares qui sont aux prises ? » On le dit. « Mais quels sont les vainqueurs ? » « Je l'ignore. » Tant de placidité au milieu de cette terrible conjoncture, tant d'indifférence même, était à peine croyable. « Et le fil n'est pas coupé ?» demanda Michel Strogoff. « Il est coupé entre Kolyvan et Krasnoïarsk, mais il fonctionne encore entre Kolyvan et la frontière russe. » « Pour le gouvernement ?»« Pour le gouvernement, lorsqu'il le juge convenable. Pour le public, lorsqu'il paie. » « C'est 10 kopecks par mot. Quand vous voudrez, monsieur. » Michel Strogoff allait répondre à cet étrange employé qu'il n'avait aucune dépêche à expédier, qu'il ne réclamait qu'un peu de pain et d'eau, lorsque la porte de la maison fut brusquement ouverte. Michel Strogoff, croyant que le poste était envahi par les Tartares, s'apprêtait à sauter par la fenêtre quand il reconnut que deux hommes seulement venaient d'entrer dans la salle, lesquels n'avaient rien moins que la mine des soldats tartares. L'un d'eux tenait à la main une dépêche, écrite au crayon, et devançant l'autre, il se précipita au guichet de l'impassible employé. Dans ces deux hommes, Michel Strogoff retrouva, avec un étonnement que chacun comprendra, deux personnages auxquels il ne pensait guère et qu'il ne croyait plus jamais revoir. C'étaient les correspondants Harry Blount et Alcide Jolivet, non plus compagnons de voyage, mais rivaux, mais ennemis, maintenant qu'ils opéraient sur le champ de bataille. Ils avaient quitté Ichim quelques heures seulement après le départ de Michel Strogoff, et s'ils étaient arrivés avant lui à Kolyvan en suivant la même route, s'ils l'avaient même dépassée, c'est que Michel Strogoff avait perdu 3 jours sur les bords de l'Irtych. Et maintenant, après avoir assisté tous deux à l'engagement des Russes et des Tartares devant la ville, après avoir quitté Kolyvan au moment où la lutte se livrait dans ses rues, ils étaient accourus à la station télégraphique afin de lancer à l'Europe leur dépêche rivale et de s'enlever l'un à l'autre la primeur des événements. Michel Strogoff s'était mis à l'écart, dans l'ombre. Et sans être vu, il pouvait tout voir et tout entendre. Il allait évidemment apprendre des nouvelles intéressantes pour lui et savoir s'il devait ou non entrer dans Kolyvan. Harry Blount, plus pressé que son collègue, avait pris possession du guichet et il tendait sa dépêche pendant qu'Alcide Jolivet, contrairement à ses habitudes, piétinait d'impatience. « C'est 10 kopecks par mot, » dit l'employé en prenant la dépêche. Harry Blount déposa sur la tablette une pile de roubles que son confrère regarda avec une certaine stupéfaction. « Bien, » dit l'employé. Et avec le plus grand sang-froid du monde, il commença à télégraphier la dépêche suivante. Daily Telegraph, Londres. De Kolyvan, gouvernement d'Omsk, Sibérie, 6 août. Engagement des troupes russes et tartares. Cette lecture étant faite à haute voix, Michel Strogoff entendait tout ce que le correspondant anglais adressait à son journal. Troupes russes repoussées avec grande perte. Tartares entrés dans Kolyvan ce jour même. Ces mots terminaient la dépêche. À mon tour maintenant, s'écria Alcide Jolivet qui voulut passer la dépêche adressée à sa cousine du faubourg Montmartre. Mais cela ne faisait pas l'affaire du correspondant anglais qui ne comptait pas abandonner le guichet afin d'être toujours à même de transmettre les nouvelles au fur et à mesure qu'elles se produiraient. Aussi ne fit-il point place à son confrère. « Mais vous avez fini !» s'écria Alcide Jolivet. « Je n'ai pas fini !» répondit simplement Harry Blount. Et il continua à écrire une suite de mots qu'il passa ensuite à l'employé et que celui-ci lut de sa voix tranquille. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » C'étaient les versets de la Bible qu'Harry Blount télégraphiait pour employer le temps et ne pas céder sa place à son rival. Il en coûterait peut-être quelques milliers de roubles à son journal, mais son journal serait le premier informé. La France attendrait. On conçoit la fureur d'Alcide Jolivet qui, en toute autre circonstance, eût trouvé que c'était de bonne guerre. Il voulut même obliger l'employé à recevoir sa dépêche de préférence à celle de son confrère. « C'est le droit de monsieur, » répondit tranquillement l'employé en montrant Harry Blount et en lui souriant d'un air aimable. Et il continua de transmettre fidèlement au Daily Telegraph le premier verset du Livre Saint. Pendant qu'il opérait, Harry Blount alla tranquillement à la fenêtre et sa lorgnette aux yeux, il observa ce qui se passait aux environs de Kolyvan afin de compléter ses informations. Quelques instants après, il reprit sa place au guichet et ajouta à son télégramme « Deux églises sont en flammes. L'incendie paraît gagner sur la droite. La terre était informe et toute nue. Les ténèbres couvraient la face de l'abîme. » Alcide Jolivet eut tout simplement une envie féroce d'étrangler l'honorable correspondant du Daily Telegraph. Il interpella encore une fois l'employé, qui, toujours impassible, lui répondit simplement « C'est son droit, monsieur, c'est son droit. À 10 kopecks par mot. » Et il télégraphia la nouvelle suivante que lui apporta Harry Blount. « Des fuyards russes s'échappent de la ville. Or, Dieu dit que la lumière soit faite. » Et la lumière fut faite. Alcide Jolivet enrageait, littéralement. Cependant, Harry Blount était retourné près de la fenêtre, mais cette fois, distrait sans doute par l'intérêt du spectacle qu'il avait sous les yeux, il prolongea un peu trop longtemps son observation. Aussi, lorsque l'employé eut fini de télégraphier le troisième verset de la Bible, Alcide Jolivet prit-il sans faire de bruit sa place au guichet, et ainsi qu'avait fait son confrère, après avoir déposé tout doucement une respectable pile de roubles sur la tablette, il remit sa dépêche, que l'employé lut à voix haute. « Madame Jolivet, 10, Faubourg Montmartre, Paris. » De Kolivan, gouvernement d'Omsk, Sibérie, 6 août. Les fuyards s'échappent de la ville. Russes, battus. Poursuite acharnée de la cavalerie tartare. Et lorsqu'Harry Blount revint, il entendit Alcide Jolivet qui complétait son télégramme en chantonnant d'une voix moqueuse. Il est un petit homme tout habillé de gris dans Paris. Trouvant inconvenant de mêler, comme l'avait osé faire son confrère, le sacré au profane, Alcide Jolivet répondait par un joyeux refrain de Béranger au verset de la Bible. « Oh ! » fit Harry Blount. « C'est comme cela, » répondit Alcide Jolivet. Cependant, la situation s'aggravait autour de Kolivan. La bataille se rapprochait et les détonations éclataient avec une violence extrême. En ce moment, une commotion ébranla le poste télégraphique. Un obus venait de trouer la muraille et un nuage de poussière emplissait la salle des transmissions. Alcide Jolivet finissait alors d'écrire ses vers. « Joufflu comme une pomme qui sans un sou content » mais s'arrêter, se précipiter sur l'obus, le prendre à deux mains avant qu'il eût éclaté, le jeter par la fenêtre et revenir au guichet, ce fut pour lui l'affaire d'un instant. 5 secondes plus tard, l'obus éclatait au dehors. Mais continuant à libeller son télégramme avec le plus beau sang-froid du monde, Alcide Jolivet écrivit. Obus 6 a fait sauter la muraille du poste télégraphique. En attendons quelques autres du même calibre. Pour Michel Strogoff, il n'était pas douteux que les Russes ne fussent repoussés de Kolivan. Sa dernière ressource était donc de se jeter à travers la steppe méridionale. Mais alors une fusillade terrible éclata près du poste télégraphique et une grêle de balles fit sauter les vitres de la fenêtre. Harry Blount, frappé à l'épaule, tomba à terre. Alcide Jolivet allait, à ce moment même, transmettre ce supplément de dépêche. Harry Blount, correspondant du Daily Telegraph, tombe à mon côté, frappé d'un éclat de muraille. Quand l'impassible employé lui dit avec son calme inaltérable « Monsieur, le fil est brisé !» Et quittant son guichet, il prit tranquillement son chapeau qu'il brossa du coude et toujours souriant, sortit par une porte que Michel Strogoff n'avait pas aperçue. Le poste fut alors envahi par des soldats tartares et ni Michel Strogoff ni les journalistes ne purent opérer leur retraite. Alcide Jolivet, sa dépêche inutile à la main, s'était précipité vers Harry Blount, étendu sur le sol, et en brave cœur qu'il était, il l'avait chargé sur ses épaules dans l'intention de fuir avec lui. Mais il était trop tard. Tous deux étaient prisonniers, et en même temps qu'eux, Michel Strogoff, surpris à l'improviste au moment où il allait s'élancer par la fenêtre, tombait entre les mains des Tartares.